Le troisième élément de la définition, c'est que si le philosophe doit définir et comprendre l'essence des choses, répondre à la question qu'est-ce que, il peut être amené à remettre en cause les cadres de pensée existants et à instituer en lieu et place de ceux-ci de nouveaux systèmes d'interprétation du réel. Les cadres de pensée existants, ça peut être les paradigmes scientifiques, les savoirs scientifiques et académiques, les stéréotypes sociaux, les préjugés dont parlent les philosophes du XVIIIe siècle, les uns pour les condamner, les autres comme Burke pour dire qu'ils contiennent quelque chose de précieux, et ça peut être les convictions du temps, les simples idées reçues. Les croyances d'une époque, d'un milieu, en effet, sont comme l'air qu'on respire. Ordinairement, on ne le voit pas. Enfin, l'air qu'on respire, on ne le voit pas. Et les croyances, on n'en est pas conscient. Et le philosophe, précisément, sera celui qui est capable de les voir, justement, et de les donner à voir. Il le peut grâce à une intelligence hors du commun et aussi à une tournure d'esprit particulière. Il est l'homme qui est capable de reprendre les choses à la base, de montrer comment, si j'ose dire, la maison a été bâtie. Et c'est ce qui rend possible que, s'il le faut, eh bien, la maison soit déplacée, rectifiée, agrandie, voire reconstruite sur de tout nouveaux plans. Et le philosophe ressent le besoin de faire cela parce qu'à un certain moment, d'anciens cadres de pensée, qui avaient été posés jadis peut-être par d'autres philosophes, ne permettent plus de comprendre adéquatement le réel. En effet, les mentalités et les cultures, comme l'humanité elle-même, la vie et le cosmos, sont emportées dans le temps et elles s'altèrent donc sous l'impact d'innovations scientifiques et techniques, de circonstances politiques et sociales inédites, de contacts avec les cultures étrangères. Et ces changements peuvent être progressifs ou survenir par crise brutale, conformément aux différents concepts d'histoire qui ont été proposés au XVIIIe et XIXe siècle, ou si l'on préfère au concept plus moderne d'évolution culturelle et d'ordre spontané de société, étudié notamment par la tradition libérale d'Adam Ferguson, Lord Acton ou Herbert Spencer, Karl Popper ou Friedrich Hayek. Or, peu importe, puisque quelques représentations de l'histoire qu'on se fasse, je pense et je crois qu'on peut et qu'on doit faire l'hypothèse que la philosophie joue un rôle privilégié dans ces mutations. Alors pourquoi en est-il ainsi? Il importe de le comprendre et je vais essayer de dire précisément ce que j'ai à l'esprit. Les cultures, qui sont les prismes à travers lesquels les réalités de la vie trouvent une place et prennent un sens déterminé, ne sont certes pas des chaos d'éléments disparates, mais elles sont organisées et elles le sont largement de façon hiérarchique. Ce qui veut dire que les idées d'une culture ne sont pas toutes situées sur un même plan, mais elles s'organisent en strates ou en couches superposées, où les plus basses dépendent des plus hautes, y compris logiquement. Par exemple, les faits et les événements singuliers sont intelligibles dans la mesure où ils viennent se ranger sous des notions ou concepts généraux. Ceux-ci, à leur tour, occupent une place déterminée dans des systèmes notionnels plus vastes, des récits fondateurs, des dogmes, des doctrines, des idéologies. Ultimement, ces systèmes notionnels s'ancrent eux-mêmes dans des principes, c'est-à-dire des valeurs et des croyances que partagent, sans les remettre en cause, ni même le plus souvent en être conscient, les hommes d'une certaine époque, d'un certain temps et d'un certain lieu. Or, la philosophie est la science des principes, puisqu'elle est la science qui cherche, en toute question, à remonter aux principes et à parvenir à les présenter en système explicite et si possible articulé et cohérent. Elle est donc par excellence la science capable de comprendre et aussi de contester les systèmes d'interprétation existants et, le cas échéant, d'en concevoir de nouveaux. Alors, il faudra certes que le nouveau système d'interprétation se répande, ce qui peut durer des décennies ou même des siècles, puisqu'il faudra passer par tout un étagement de médiation et de cercles concentriques, depuis les happy few qui les premiers auront lu et compris les œuvres novatrices, qui sont souvent difficiles, jusqu'aux commentateurs qui les expliqueront et les exposeront de façon plus simple et ordonnée, jusqu'aux professeurs qui les enseigneront et jusqu'aux prédicateurs et publicistes en général qui en diffuseront dans le public les thèses ou seulement d'ailleurs les habitudes de pensée. Au terme de ce processus, il pourra se faire qu'un grand nombre d'hommes pensent le réel à travers les nouveaux prismes. Et puisque quand on voit les choses différemment, on agit différemment, eh bien ce sera la société elle-même qui sera bientôt modifiée, peut-être en profondeur. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'une philosophie nouvelle peut déplacer le socle des mentalités d'une époque et même inaugurer une nouvelle époque de la vie sociale. Alors, donnons quelques exemples anciens et modernes de ce phénomène, d'ailleurs bien connu. Thalès, Anaximandre et Anaximène, à l'école de Millet, ont beaucoup fait pour faire passer dans l'opinion grecque, du moins celle de l'élite, une conception démythifiée du cosmos et indirectement de la cité elle-même, avec toutes les conséquences que ça implique, évidemment, sur le plan politique. Les sophistes, qui cherchaient des principes pour rendre efficaces les discours politiques et judiciaires, ont eu et répondu, et ça je tiens à cette idée du fameux livre d'Irénée Maroux sur l'éducation dans l'Antiquité, ils ont répondu l'idée qu'il faut acquérir une vaste culture dans les sciences et les lettres. En effet, on ne touche un vaste public qu'en lui parlant de choses qu'il connaît, donc de choses communes à tous, de ce que la tradition appelait les lieux communs. Et ce sont donc les sophistes qui ont été à l'origine de la promotion de la culture générale comme composante obligatoire de toute éducation digne de ce nom, y compris d'homme d'action. L'homme d'action est toujours confronté à des situations particulières, mais il s'y repère mieux quand il a acquis une vaste culture générale. Et cette idée est encore celle des éducateurs d'aujourd'hui, ou du moins l'était jusqu'à une date récente. Alors, il est vrai que nous avons perdu l'essentiel des écrits des sophistes, mais nous savons, par les fragments et les témoignages, qu'ils ont été l'auteur de nombreux ouvrages où ils présentaient ces principes. Et ils ont donc assurément philosophé, et de ce fait, ils ont changé les mentalités de leur époque. Ensuite, on peut dire que les chefs des écoles philosophiques créées sur le modèle de l'Académie, Platon, Aristote, et des écoles de rhétorique dans la lignée d'Isocrate, ont tant et si bien agi sur les mentalités de leurs contemporains qu'ils ont fini par les persuader que les professions intellectuelles constituent une aristocratie de l'esprit pouvant et devant prévaloir sur les traditionnelles aristocraties guerrières. Cet idéal de Paideia sera adopté ensuite par tout le monde gréco-romain jusqu'aux invasions barbares. On se souvient que César a prétendu être un homme de lettres autant qu'un conquérant. Idée qui n'avait guère effleuré Alexandre et qui ne viendra pas non plus à l'esprit, bien entendu, plus tard, ni à Attila, ni à Jean Giscan, ni à Tamerlan. Et ensuite, quand vint le christianisme, de nouveaux phénomènes de transmutation des mentalités se font jour. Les premiers moines, les Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat, Saint-Benoît, Saint-Colomban, conçurent et promurent à la fin de l'Antiquité et dans le Haut Moyen-Âge des écoles monastiques, qui ont sauvé la culture antique d'ailleurs, enfin c'est bien connu, mais des écoles monastiques dont le but dernier était la mystique plutôt que la science. Ce n'était plus la païdéia, mais c'était la mystique. Au contraire, au XIIe siècle, des hommes comme Abélard ou Hugues de Saint-Victor décideront le concept d'école nouvelle dont le but dernier sera justement la science plutôt que la mystique. C'est ce qui rendra possible la naissance des universités médiévales à partir du XIIIe siècle. Donc, sous l'effet des écrits théoriques des uns et des autres, eh bien, les mentalités du Moyen-Âge se seront ainsi tournées dans un sens, puis retournées dans un autre sens. Alors, on pourrait multiplier les exemples, je n'en citerai que deux ou trois autres. Les écrits de Galilée, Descartes, Leibniz, Locke ont abouti à faire de l'Europe un monde voyant dans le progrès des sciences, de la nature, l'horizon de son évolution et de sa destinée. Et de fait, la science moderne fructifia au tournant des 18e et 19e siècles. Et elle poursuit aujourd'hui le même mouvement. Les écrits de Grotius, de Pierre Nicole, de Pierre de Boisguibert, de Pieter de la Cour, le théoricien hollandais de la République marchande, de Mandeville, de Hume, de Turgot, d'Adam Smith, et jusqu'à Sieyès, d'Estude de Tracy ou Benjamin Constant en France, jusqu'au père de la Révolution américaine outre-Atlantique, qui furent pour la plupart, on l'oublie parfois, des intellectuels et même des savants, eh bien tous ces écrits ont abouti à persuader l'élite de l'opinion, au rebours des convictions féodales et corporatives, de l'efficacité supérieure d'une économie de liberté individuelle régulée par des lois égales pour tous. Et ils ont convaincu l'opinion de la légitimité et même de la supériorité morale de ce type de société. Moyennant quoi, les sociétés occidentales où ces grilles de lecture nouvelles s'étaient diffusées ont mis en place les institutions de démocratie libérale, rendant possible l'émergence de ce qu'on appelle la modernité. Aussitôt après, bien entendu, Marx et d'autres théoriciens socialistes ont remis en cause ces grilles de lecture et ils ont tenté d'ébranler le socle humaniste de la civilisation européenne, en particulier son socle juridique. Ils ont ainsi rendu pensable, donc possible, nombre de mouvements révolutionnaires des 19e et 19e siècles. Alors, je citerai, pour finir cette liste d'exemples, mais j'aurais pu en prendre d'autres, le cas des structuralistes et déconstructionnistes français récents qui ont beaucoup fait, hélas, pour finir de déstabiliser et de déraciner les systèmes interprétatifs existants, que ce soit l'humanisme, la foi dans la science, la foi dans l'état de droit. Et ils ont contribué ainsi à créer et à entretenir le scepticisme et le relativisme actuels. Mon opinion personnelle est qu'ils se sont trompés, moyennant quoi ils ont produit des effets pervers, tout à fait redoutables, que d'autres travaux philosophiques auront à corriger un jour. Mais je ne leur donne pas moins acte qu'ils ont produit ces effets et qu'ils les ont produits en tant que philosophes. Ils ont pu accomplir cette œuvre de destruction parce que, étant donné leur formation et leur entraînement philosophique, bon nombre d'entre eux avaient une formation de philosophe, ils étaient capables de parler le langage des principes, c'est-à-dire de remonter jusqu'aux cadres les plus élevés qui conditionnent la perception des choses. On objectera que d'autres types d'esprits, bien entendu, des écrivains, des artistes, des hommes politiques, sont susceptibles d'exprimer des idées nouvelles et de les diffuser, certes. Mais il ne suffit pas de lancer des idées ponctuelles sur l'agora pour exercer une influence en profondeur. Car si ces idées sont, comme je dis, ponctuelles, c'est-à-dire appartiennent aux strates inférieures, non principielles du monde de la culture, elles ne peuvent changer les systèmes interprétatifs existants. Et il est donc fatal qu'elles soient interprétées, jugées, et, j'allais dire digérées, dans le cadre même de ces systèmes, quelques bruits et quelques fureurs qu'elles aient éventuellement produits sur le moment. Et comme telles donc, elles resteront sans effet durable et elles se perdront dans le kaléidoscope social. Seules peuvent agir en profondeur sur les mentalités les entreprises intellectuelles qui touchent les systèmes interprétatifs eux-mêmes, qui sont capables donc de les expliciter, je l'ai dit, de les modifier, de les remanier à différents degrés, et donc de déterminer un changement de vision significatif. Or, ce sont, et ce sont seulement, les entreprises intellectuelles de type et de facture philosophique. Bien entendu, nombre d'œuvres estampillées philosophie par les institutions académiques n'ont pas ces effets, alors que d'autres œuvres, portant d'autres étiquettes, ou carrément inclassables, peuvent jouer le rôle structurant dont je parle, dès lors qu'elles ont ce caractère de toucher au plus haut principe. Si le fait d'avoir le pouvoir de changer le paysage intellectuel est le critère de la vraie philosophie, on voit en effet que la frontière de la philosophie devient assez poreuse. Si Socrate, Platon ou Descartes ont bouleversé les systèmes d'interprétation, que dire de Moïse, de Bouddha, de Zoroastre, de Mahomet, des pères de l'Église, des théologiens scolastiques, ou de Luther, ou de Calvin, ou de Marx et de Freud? Et que dire des grands livres actuellement classés dans les sciences sociales que j'ai cités tout à l'heure, je ne redonne pas de liste, et aussi, le cas échéant d'ailleurs, de livres écrits par des scientifiques, comme Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, ou La logique du vivant de François Jacob, Le cristal et la fumée d'Henri Atlan, ou La nouvelle alliance de Prigogine et Stengers. Par leur force théorique, par le plan élevé où ils se situent, par leur intention synoptique de considérer tout un pan du réel en dépassant délibérément les problèmes particuliers et ou pratiques de leur discipline, ces livres ont à quelques degrés changé la vision de leurs contemporains et des générations suivantes. Donc, concluons qu'il est légitime et nécessaire de reconsidérer les corpus existants, de les redessiner, de les réorganiser, d'en exclure peut-être certaines œuvres dites classiques mais de faible intérêt, et d'y inclure certaines autres œuvres, même venues d'autres horizons. Ainsi fera-t-on vivre la discipline philosophie, et ainsi rendra-t-on justice aux jeunes gens qu'on engage dans ces études, puisqu'on les préparera mieux à vivre et à penser dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors précisons aussi un point important, et que je sais polémique, c'est que la thèse selon laquelle la philosophie peut avoir un rôle historiquement créateur implique de ne pas confondre le philosophe et l'homme de la tradition. Il faut avoir une conception mahométane du Coran incréé pour percevoir les textes de notre canon philosophique actuel comme intangibles et pour croire que nous touchons l'éternité simplement parce que nous leur sommes inconditionnellement fidèles. Ce que nous touchons ainsi, c'est seulement une époque, qui a eu certes ses mérites, mais aussi ses prismes déformants et même ses cécités, dont des siècles de réflexion ont pu peut-être nous affranchir. Et je me référais ici au Saint-Augustin du De Magistro, selon qui ce ne sont ni les textes passés, ni les professeurs, donc, qui nous enseignent la vérité. Ils ne font que nous aider à nous tourner vers elle, jusqu'à ce que nous la voyions par une intuition directe. Et c'est parce qu'il est ainsi éclairé sur la vérité par un verbe intérieur que le penseur peut discerner le vrai et le faux dans toute parole passée, dans toute la tradition dont il hérite, et qu'il peut donc prendre la responsabilité d'y faire des choix. Et j'en prendrai un exemple particulier, qui est celui de la tradition chrétienne, qui est donnée pourtant comme une tradition du livre par excellence, et à propos de laquelle les théologiens les plus pénétrants ont bien analysé le problème suivant. La révélation, ont-ils dit, ce n'est pas un texte, c'est Dieu incarné, Jésus-Christ et sa geste glorieuse. Il a fait œuvre de charité par sa vie et par sa mort, et c'est essentiellement cela qui s'est transmis de lui à nous, parce que Olivier Clément, théologien orthodoxe français, appelle la chaîne d'or des hommes apostoliques, la chaîne d'or des hommes apostoliques. La révélation nous est apportée, non par un texte, mais par cet exemple de la charité. Lien que d'ailleurs Origène et Saint Bernard avaient bien discerné sous le verset du Cantique des Cantiques, « Ton nom est une huile qui s'épanche ». Il faut avoir été touché par cette huile, frappé intérieurement par ce parfum du nom du Christ qui s'épanche, pour commencer à comprendre quoi que ce soit à la Bible. Le texte biblique, en effet, n'est ni le porteur, ni le dispensateur de cette révélation. Il n'est que le recueil des paroles qui ont été dites par ceux qui, ayant été touchés et transfigurés par la charité, ont tenté d'exprimer ce mystère dans des mots bien imparfaits. Alors, ce recueil est très précieux à ce titre, mais il n'a pas sa règle en lui-même. Il a pour règle le verbe intérieur de ses lecteurs. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Église, qui dit que le Saint-Esprit est venu en elle à la Pentecôte, peut, de façon très cohérente, se permettre de faire de nouveaux dogmes, puisque saint Paul lui-même a dit que la lettre tue et que l'Esprit vivifie. Moyennant quoi, le christianisme intégriste attaché à la seule lettre, par exemple celui de certaines sectes protestantes, est fort hétérodoxe. Autrement dit, dans la tradition chrétienne, on peut dire que le canon n'est pas par lui-même normatif. Et ce qui est dit de la tradition chrétienne est vrai, je pense, a fortiori pour d'autres traditions, et d'abord pour la tradition philosophique, qui s'inaugure en Socrate par l'esprit critique. Lire Platon, Aristote ou Plotin, ou Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant et les autres, c'est évidemment une occupation fort instructive et littéralement inépuisable. Mais le philosophe ne doit pas moins avoir sur ces textes un regard quelque peu distancé. Il ne saurait croire que ces textes contiennent toute la vérité et rien que la vérité. Puisque de la vérité nous avons en nous le critère, c'est elle qui est juge en dernier ressort de la pertinence de ces textes, comme le dit saint Augustin. Et d'ailleurs c'est ce que disait déjà Aristote dans la parole que j'ai citée plus haut, selon laquelle c'est par le nous, partie divine de notre âme, que nous voyons les belles essences de la nature. Alors, puisque les grands philosophes de notre tradition l'ont dit eux-mêmes, au sujet d'eux-mêmes, pourquoi donc les sacraliser, en somme contre leur gré? Pourquoi vouloir faire d'eux un panthéon? Sinon, dans une logique, qu'il faut bien dire, institutionnelle plus qu'intellectuelle, et qui vise sans doute à protéger des intérêts politiques, professionnels et politiques, puisqu'on sait que ce panthéon a été constitué au XIXe siècle et pas avant, dans le contexte de la lutte de la franc-maçonnerie contre l'Église. Rien de ce qui a été fait dans ce contexte ne mérite l'éternité, ou pour le dire autrement, seul peut valoir l'éternité à un texte, sa vérité intrinsèque, et certes pas le fait qu'il ait été inscrit un beau jour dans une liste par la volonté d'un appareil idéologique d'État, pour parler comme Althusser. J'en viens, pour terminer, au dernier critère qui caractérise les propos philosophiques. Ce sont ceux qui exercent, en changeant les grilles d'interprétation, une liberté ontologique essentielle et qui assument la pleine responsabilité historique de ses libres choix. Donc, n'est philosophique que la parole libre. En proposant en effet sa vision des choses, le philosophe ne peut faire autrement que de se mettre dans la posture du maître scolastique qui, après avoir examiné avec soin les arguments pro et contra d'une question posée, concluait en disant « Respondez-o, dicendum. Je réponds qu'il faut dire que ». Et le maître, effectivement, exerce son discernement, il fait des choix et il en répond. Par là même, je pense qu'il résout, ou du moins contourne, le paradoxe que j'ai évoqué plus haut. Parce que il entend certes parler sub specie aeternitatis, mais précisément parce qu'il est conscient des altérations qu'a apporté le temps aux différents systèmes philosophiques hérités de la tradition, il comprend que s'il veut approcher à son tour les réalités essentielles, il doit formuler les choses autrement. Et ici, deux cas se présentent. S'il est né dans un univers culturel qui a été touché par l'eschatologie biblique, où l'humanité est portée à croire en la possibilité d'un avenir meilleur, il pourra arriver qu'il propose un nouveau système interprétatif dans le but délibéré de corriger quelques mal ou de faire advenir quelques biens, et même quelques biens, non pas seulement qu'il faut restaurer après qu'il a été affecté par un mal, mais quelques biens entièrement nouveaux. Et deuxième cas de figure, s'il s'agit d'un philosophe qui refuse toute vision eschatologique de ce type et qui continue à croire en l'éternel retour et qui n'entend en rien améliorer l'état du monde par sa philosophie, cela n'atténue pas ses responsabilités historiques, à mon avis. Car dès lors qu'il y a usure des langages, il faut réinventer de nouveaux langages, même pour redire la même chose. Or, en innovant, on peut toujours se tromper. Et il ne faut pas que le philosophe, évidemment, dise n'importe quoi. Donc, dans les deux cas, que le philosophe soit progressiste ou réactionnaire, il doit assumer une responsabilité intellectuelle. Et pour cela, il doit être libre. Comme l'ont été de fait, et sauf erreur, tous les grands philosophes que nous connaissons. Hein, quels esprits plus libres que ceux de Platon, d'Aristote, de Plotin, de tous, de Descartes, de Malebranche. Autrement dit, en concevant sa pensée, le philosophe doit braver le destin, et certes pas l'aimer, hein, selon ces sordides préceptes d'Épictète. Il doit croire que l'homme est ontologiquement libre, que Dieu l'a créé tel, et qu'il est même, comme le soutient Pic de la Mirandole dans son discours de la dignité de l'homme, la seule créature à qui Dieu n'ait pas attribué une fois pour toutes une essence, mais seulement la libre existence qui lui permet de forger lui-même l'ange ou la bête qu'il sera. Et d'autre part, je ne vois pas très bien comment on pourrait croire en la liberté humaine, postulat de la raison pratique selon Kant, si l'on ne confessait aussi les deux autres postulats, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Car quel sens y aurait-il à œuvrer à un avenir avec lequel on n'aurait pas la relation que ces deux autres postulats seuls rendent pensable ? Comment pourrait-on prendre quelque responsabilité historique que ce soit à l'égard d'une humanité dont notre mort nous séparerait à jamais ? C'est alors, évidemment, que philosopher perdrait tout sens.